Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Morgane. Cette jolie Bretonne de 32 ans, exilée sur la Côte d'Azur, est infirmière depuis maintenant 10 ans. Ensemble, nous avons parlé de son expérience en service Covid, qui s'est déroulée au printemps dernier. Bonne écoute!
Alors bonjour Morgane!
Bonjour Marielle!
Je suis ravie de t'avoir à mon micro pour ce premier épisode de podcast.
Moi aussi, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le tout premier épisode, je suis très flattée.
Bon, moi je suis vraiment trop touchée et comme je te l'ai déjà dit mille fois, j'imaginais pas démarrer ce podcast sans toi. Pour moi, tu étais vraiment la première que je voulais accueillir ici pour parler de, voilà, de ton expérience professionnelle en tant qu'infirmière, etc. Alors, pour contextualiser un petit peu, on est dans le sud de la France, sur mon lieu de vacances à la base.
C'est ça.
Il est possible, je ne me rends pas bien compte parce que donc, c'est le premier épisode, il est possible qu'on entende les cigales en fond sonore.
Voilà. Ce qui n'est pas entièrement désagréable.
Exactement, ce qui n'est pas non plus très très désagréable. Donc voilà, si vous entendez les cigales, jusque-là tout est normal, c'est pas un son qu'on a rajouté. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être notre relation, donc on est copines depuis...
Bah, une dizaine d'années maintenant.
Bah ouais, même un peu plus je crois. On s'est rencontrés
ah oui, même
sur...
Plus, oui, oui.
13 ans quasiment, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école d'infirmière, mais je vais te laisser expliquer tout ça.
Oui.
Tout d'abord, je te laisse te présenter comme tu veux, dans l'ordre que tu veux, dire ce que tu veux.
Bon, rebonjour à tous, je suis Morgane, bretonne exilée sur la Côte d'Azur depuis quelques années et en suivant mon homme. J'ai 32 ans et presque 10 ans, enfin, dans quelques semaines comme toi, de diplôme. Et j'aime la nature, les voyages, le paddle, les glaces, enfin, quand je suis pas au travail.
Une vie perso très riche.
C'est ça.
Est-ce que tu peux me dire ce que la Morgane de 5, 6 ans, je sais pas trop, voulait faire dans la vie ?
Elle voulait justement soigner d'autres personnes. J'ai toujours eu ça dans le sang depuis toute petite. Mes parents me disent, enfin, vraiment, j'ai jamais eu d'autres rêves. Moi qui souhaitais être chanteuse, coiffeuse, non. Moi, ça a toujours été soigner les autres. Je voulais même être vraiment à la base pompier. Je me levais même la nuit quand ma sœur jumelle se plaignait la nuit de maux de ventre. Elle avait l'appendicite. C'est moi qui me levais pour essayer de la soigner et justement lui donner même des médicaments, il me semble, à ce moment-là. J'ai toujours eu ça dans le sang, aider, soigner les gens.
Est-ce que tu avais quelqu'un dans ta famille qui exerçait déjà un métier dans le milieu médical, paramédical ou...
Eh ben, pas du tout. Non, personne. Je sais même pas vraiment d'où ça vient. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que dans le métier de pompier, c'était pas vraiment les incendies, les accidents qui me tentaient. C'était vraiment l'assistance à la personne, vraiment le soin pur. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée. Enfin, mes envies sont tournées vers plutôt le métier d'infirmier.
Au moment où il faut commencer à faire un choix dans son cursus, on va dire, quand on arrive en seconde ou en première, est-ce que pour toi c'était déjà vu, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire comme cursus, est-ce que c'était déjà clair pour
toi ?
Oui,
c'était clair. Mon but était d'intégrer ce qu'on appelle un IFSI, c'est un institut de formation aux soins infirmiers. Et je savais que la condition c'était d'avoir le bac. Donc en fait, mon but c'était juste d'avoir le bac, donc vous allez voir, j'ai choisi une spécialité justement un petit peu en lien, mais mon but était vraiment d'avoir le bac dans n'importe quelle spécialité afin de pouvoir intégrer l'école.
Et ça, il faut le préciser d'ailleurs, on accède au concours d'entrée avec n'importe quel bac.
C'est ça.
Technique ou générale d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Tout est possible.
Moi, j'ai choisi justement un bac qui s'appelle STLBGB. Je ne sais même pas si ça existe encore. C'est sciences et techniques de laboratoire. Biochimie, génie biologique et qui m'a encore servi pas plus tard qu'hier au travail. Donc, c'est quand même intéressant. Mais je crois que la plupart des infirmières assez jeunes, on va dire, ont plutôt fait un bac SMS en
sciences médico-sociales. Mais je ne sais plus si ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Il y a eu tellement de modifications de nom de bac, etc. Mais oui, il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient aussi avec un bac SMS, c'est vrai.
C'est ça. Pendant cette année terminale, j'avais passé les concours. Donc, à l'époque, en tout cas, c'était un écrit et un oral. J'ai pas été reçue à cette année-là. Donc, j'ai fait un an de préparation au concours en Bretagne. Et du coup, j'ai été reçue l'année d'après dans une école à Lyon pour rejoindre à nouveau mon homme qui étudiait dans la même ville. Et du coup, c'est là-bas que je t'ai rencontrée, dans notre école d'infirmière. On avait toutes les deux, parce que toi, tu es mariée maintenant, un nom de famille qui était plus à la fin de l'alphabet, dans les dernières lettres. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans le même groupe et qu'on s'est rencontrés. Donc, c'est assez rigolo comme anecdote. On a fait toutes les deux l'école un peu dans l'ancienne réforme. C'était 3 ans et 3 mois, ils me semblent terminés en octobre-novembre.
Exactement, sur la fin d'année, ouais.
Avec les MSP, les fameux petits examens, on va dire, en stage et des stages de 4 semaines, ce qui ne se fait plus vraiment en ce moment.
C'est vrai, c'est assez différent. C'était donc des stages de 4 à 5 semaines, je crois, à l'été maximum. Et il y en avait, de mémoire, 4 ou 5 par an répartis sur les 3 ans.
C'était pas équivalent le temps de cours et le temps de stage ?
À peu près. Alors, c'est pas vraiment. On peut pas vraiment parler d'alternance, déjà rien que pour le salaire qui est misérable, hein, je crois, quand on est en stage. Je me souviens plus très bien.
C'était même juste une petite indemnité, c'est même pas vraiment
exactement,
un salaire.
Ouais. Vraiment peut-être une dizaine d'euros par semaine ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas du tout quelque chose dont on peut vivre si on, voilà, si on souhaite. Subvenir à ses besoins pendant les études, on ne peut pas se baser sur ça. Et on avait de mémoire, bon, je vais poser des questions à Morgane, mais je connais la plupart des réponses vu qu'on était à l'école ensemble, mais l'obligation de faire des stages dans plusieurs
disciplines,
voilà, dans plusieurs disciplines différentes. Exactement.
On avait 2 stages en psychiatrie, 2 stages je pense en médecine, 2 en chirurgie, ce genre de choses.
Je crois que ça a changé depuis, mais à l'époque c'était comme ça. Et du coup, toi, la répartition des stages, ça s'était déroulé comment? Est-ce que tu as eu des stages vraiment qui t'ont marqué dans le bon sens,
oui,
ou dans le mauvais?
Oui, j'ai trouvé que vraiment c'était déjà très intéressant de faire notre école à Lyon parce que niveau stage c'était très riche. Il y a beaucoup de très grands centres, par exemple un centre spécialisé en cardiologie, un centre en neurologie, l'hôpital femme-mère-enfant. Du coup, ça fait une variété de lieux différents. On peut apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de patients, beaucoup de médecins, beaucoup de gestes, beaucoup de. Enfin, en expérience, c'est très très riche. Donc vraiment, déjà, c'est une bonne chose. Je pense que dans des régions plus isolées, c'est plus compliqué pour trouver des stages. Aussi variés, par exemple.
Tu conseillerais à quelqu'un peut-être qui vit dans un milieu rural, éventuellement, s'il a la possibilité de se rendre dans une grande ville pour effectuer sa formation, c'est quelque chose que tu conseillerais ?
S'il se sent, oui, peut-être, oui. Oui, okay. Parce que vraiment, c'est bien plus varié. Et, peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas essayé autre chose, mais j'ai l'impression qu'on apprend peut-être plus de choses.
Ouais, dans des grandes villes comme Lyon, on avait des amis pendant la formation qui ont fait des stages dans les services de Grand Brûlé, des choses, c'est vrai qu'on ne voit pas dans toutes les villes de France, c'est des stages qui sont passionnants. Et raconte-moi du coup un peu la formation, ton ressenti, est-ce que tu as eu des déceptions, est-ce qu'au contraire ça a révélé ta vocation, est-ce que tu t'es rendu compte que c'était vraiment le métier qui était fait pour toi, comment ça s'est passé?
Moi j'ai vu un petit peu de tout et ça m'a confortée dans mon choix, ça m'a aussi aidée à voir un petit peu ce que je voulais pas faire, des stages qui m'ont évidemment moins plu, et par exemple je pense à un stage en psychiatrie où moi j'ai beaucoup de mal, je me sens pas à l'aise du tout dans ce domaine, je sais qu'il y en a qui sont très très bons là-dedans et justement c'est parfait pour eux, moi ça m'a toujours rendu un petit peu mal à l'aise et je sais que je suis pas la personne idéale pour travailler dans ce service, mais c'est important, je pense, de se connaître. Et voilà, je sais que c'est pas une bonne idée pour moi d'aller travailler dans un service de psychiatrie, mais dans les autres, tout va bien. Il y a un stage qui m'a bien marqué justement pendant nos études. J'avais fait un stage, c'était suite à mes demandes et toujours par rapport à mes petits rêves d'enfant, on va dire. C'était un stage chez les pompiers, donc du Rhône, et j'ai beaucoup aimé justement de voir. J'ai fait plein de choses différentes. J'étais à la fois avec les secouristes dans les VSAV. Ce sont vraiment les premiers camions, on va dire, qu'on voit souvent les pompiers qui passent avec les gyrophares. C'est le véhicule d'intervention, je crois, d'assistance aux victimes. Donc, avec les secouristes, j'ai été aussi avec l'infirmier des pompiers. J'ai été aussi au SDIS du Rhône. Donc, il me semble que je ne me trompe pas, c'est le centre de régulation téléphonique. Donc, des gens qui appellent directement le 18 passent par ce centre. On m'a fait répondre au téléphone. Enfin, j'ai vu plein de choses. On m'a montré aussi l'hélico, le Dragon 69.
Oui, oui.
Les souvenirs sont bons. Et j'ai trouvé ça génial, partir en intervention comme ça. Moi, je ne me sentais pas d'en faire mon métier. Donc, c'est vraiment comme ce que je m'imaginais en fait plus jeune. Mais ça m'a confortée dans mon choix de plutôt devenir infirmier en soins, par exemple, dans un centre de soins.
En soins généraux ou en milieu hospitalier ou extra-hospitalier.
Ça, j'ai beaucoup aimé. Autre chose, un autre stage qui m'a bien marqué, c'est suivre des infirmiers libéraux dans ma petite campagne de mes parents en Bretagne. Et j'ai adoré cette ambiance, vraiment, cette relation particulière entre l'infirmier et les patients en milieu rural, parce que souvent, ils sont isolés. Géographiquement, humainement, et la relation est vraiment très particulière. Et d'ailleurs, c'est un projet sûrement dans un très long moment, je pense, mais d'être infirmier libéral en milieu rural pour ma part. J'ai beaucoup aimé.
Ouais, et c'est un métier aussi qui a une facette encore différente de l'infirmier qu'on rencontre en milieu hospitalier. Mmh. T'es pas juste infirmier, c'est vraiment presque un membre de l'entourage du patient.
Oui, personne privilégiée, bien sûr.
Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un tournant dans la carrière qui parle à beaucoup de personnes et qui est vraiment envisagé, surtout voilà, en fin de carrière, c'est quelque chose qu'on entend pas mal.
C'est difficile, hein. Souvent les infirmiers aussi sont isolés, hein, par rapport justement aux médecins traitants, tout ça, mais c'est vraiment enrichissant. Il y en a à qui ça plaît, d'autres moins. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Les stages aussi dans les services de chirurgie, moi, c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Et, d'ailleurs, j'ai passé mon diplôme dans un de ces services et voilà.
Oui, ça alors, m'a beaucoup plu. À l'époque, dans notre formation, le dernier stage qu'on appelait le stage
de diplôme
d'État, voilà, c'était le stage dans lequel on effectuait cette dernière évaluation où un formateur extérieur à l'école, d'ailleurs,
exactement,
de mémoire, venait nous voir dans le service et nous demander une démarche de soins, donc vraiment présenter un ou plusieurs cas de patients en fonction du service dans lequel on se trouvait, et puis vraiment se mettre dans la peau d'un infirmier diplômé et prouver qu'on était capable d'exercer la profession. Donc ça s'est fini, toi, en stage de chirurgie?
Oui, un stage de chirurgie générale, justement, et ça s'était très bien passé.
Donc tu recevais les patients en suite de chirurgie
Oui, juste avant, juste après, et en chirurgie générale, donc il y avait un petit peu de tout, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien, bon, donc ça s'est bien passé.
Sortie du diplôme, pour toi, c'était assez clair entre ce qui te plaisait, ce que tu souhaitais vraiment, vraiment pas faire. Du coup, comment ça s'est décidé, ce premier job? Comment ça s'est passé, le contexte, etc.?
J'ai une expérience assez compliquée de premier job qui m'avait vraiment, vraiment pas plu. C'était dans un centre de long séjour où c'était très mal organisé. On était vraiment à la limite, voire même dépassé la limite de la maltraitance. Et du coup, ça m'a aussi montré exactement ce que je ne souhaitais pas et dans quel endroit je voulais pas travailler. Enfin, en tout cas, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire à mon futur, donc c'était une expérience très désagréable, mais ça m'a permis de voir ce qui me plaisait et plaisait pas. Ça, entre autres, évidemment, je voulais pas recommencer, mais j'ai réussi à partir à mon futur, si on veut. J'ai suivi mon homme sur la Côte d'Azur, et là j'ai eu une autre expérience. Justement, j'ai fait quelques années, même pas mal d'années, en chirurgie orthopédique traumatologique, donc par exemple des accidents de la roue, des choses comme ça, ou des personnes âgées qui ont des articulations douloureuses. Je trouve que c'est assez satisfaisant, parce qu'un os cassé ou justement un problème d'articulation, ça se répare assez facilement au bloc, et c'est satisfaisant. La personne retrouve vite de l'autonomie, a moins mal, et je trouve ça vraiment satisfaisant, on répare facilement.
Et peut-être un bon équilibre aussi entre la prise en charge, l'aspect des soins techniques. Il y a des infirmiers qui sont davantage attirés par des services dans lesquels il y a des pansements à réaliser. Est-ce que c'est des choses que tu faisais, toi,
au quotidien? J'adorais ça. Ouais. Oui, enlever des redons, ça va vraiment parler. Je sais pas, je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast sont pas forcément du métier, mais pour ceux qui connaissent, moi j'adore enlever des points de suture, des agrafes, enlever des redons. Moi j'adore ce genre de choses.
Les redons, c'est les fameux petits systèmes de drainage qui sont cousus à la peau,
qui permet d'aspirer un petit peu les écoulements, les sérosités après une chirurgie.
Voilà, pour éviter les hématomes ou autre. Ouais, c'est des gestes que t'as toujours apprécié faire. C'est quelque chose qui te plaisait.
Oui, même des prises de sang, des choses classiques. Enfin, oui, vraiment. La routine, on va dire, de l'infirmier. Moi, j'aime beaucoup ces petits soins techniques, mais j'aime autant aussi les soins relationnels, discuter avec les patients, prendre le temps vraiment de les écouter. Ça me plaît aussi beaucoup. Il y en a qui sont vraiment très techniques, d'autres très relationnels, on va dire, et d'autres un peu comme moi, un petit peu des deux en même temps.
Ouais, est-ce que pendant la formation, ou est-ce qu'au fil de tes expériences professionnelles, tu as réussi à mettre le doigt sur la conception que tu avais du métier, en tout cas l'infirmière que tu voulais devenir ou ne pas devenir?
Bien sûr.
On passe aussi par des expériences. Enfin, moi, je suis passée par là, de voir dans des stages un infirmier, une infirmière, et me dire, je sais que c'est comme ça que je voudrais devenir. Est-ce que ça t'est arrivé aussi?
Oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les albums pour les enfants. Tu sais, tu peux choisir les yeux, la bouche de la personne le personnage que tu veux créer. C'est un petit peu ça. J'avais envie de prendre, par exemple, la patience de telle personne, la dextérité d'une autre, et on essaye de se faire un petit peu l'infirmier de rêve qu'on voudrait devenir. Donc, j'ai essayé, je sais pas si j'y arrive, mais et à contre-exemple, on voit aussi des choses. j'adhère pas du tout au fonctionnement de tel ou tel professionnel, ça m'intéresse pas, et on fuit certaines choses, on évite de reproduire
des choses qu'on a vues,
oui, voilà,
avec lesquelles on n'est pas forcément en accord.
Comme dans tout métier.
Bien sûr. Oui. Alors pour replacer un petit peu de contexte, donc on enregistre ce podcast fin août 2020. On est toujours en plein cœur d'une pandémie mondiale, donc le Covid-19. Hein, pour les personnes qui nous écoutent au moment où le podcast sort, ou même quelques années plus tard, je pense que c'est quelque chose qui restera quand même dans les annales. Ce dont je souhaitais parler avec toi aujourd'hui, c'est justement la place de l'infirmier et de l'infirmière pendant cette période d'épidémie. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs... Voilà, peut-être beaucoup de non-dits aussi. J'ai l'impression que cette période de confinement, etc., elle a mis vraiment en lumière les personnes du milieu médical, dans le bon sens du terme, et à la fois, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'inconnus. Et je sais que toi, tu as été appelée pour participer, pour intervenir dans un service qui s'était monté dans l'hôpital dans lequel tu travaillais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte, les services qui ont été créés pour prendre en charge ces patients?
En fait, on m'a appelée, à ce moment-là, je travaillais sur l'équipe de suppléants, donc c'est un petit peu les infirmiers, volants dans l'hôpital qui peuvent venir dépanner en cas de besoin, donc ils sont un petit peu formés pour tous les services. Et dans ce cadre, en fait, j'ai été dans vraiment, j'ai même calculé l'autre jour, une quinzaine de services différents, donc la chirurgie, la médecine, psychiatrie, le dépôt de sang pour les transfusions, les EHPAD, les établissements pour les personnes âgées, la psychiatrie, pédiatrie, je sais même pas si je les ai dit, mais il y a beaucoup, beaucoup de services.
Et donc au jour t'es appelée dans un service ou dans un autre pour intervenir
C'est ça, donc on doit être très, très, très polyvalent, avoir une adaptabilité, ça se dit
Adaptabilité
de dingo pour vraiment faire face à plein de pathologies différentes, de patients différents et d'habitudes de service, tout ça. Et donc dans ce cadre, un jour, même plusieurs fois, j'ai été travailler dans les services donc qu'on appelle Covid, donc dédié aux patients atteints par le virus. Ma première expérience, justement, ça s'est fait dans un... Il a fallu déménager plusieurs services parce qu'en fait, pour créer une unité dédiée, on a dû déplacer évidemment des patients, du matériel, tout ça. On a même rassemblé 3 services dans un seul lieu, donc c'est vraiment un chamboulement. Je pense que vous pouvez même pas imaginer ce que c'est dans un hôpital de déplacer plusieurs services dans un, parce que chacun évidemment a des particularités, du matériel différent. Et du coup, il a fallu qu'on fasse ça pour récupérer des lits et les dédier justement à ces patients. Sachant qu'en même temps, on a dû équiper chaque chambre évidemment du matériel adapté pour ces pathologies et qui entre autres peuvent entraîner des complications respiratoires, donc évidemment il faut tout ce matériel. Et on ne peut pas mettre 2 patients évidemment ensemble, donc les chambres doubles sont devenues simples. On a vraiment adapté tout ça, avoir le minimum de choses dans la chambre pour éviter de contaminer un maximum de choses. Donc c'était vraiment particulier. Je vais juste vous dire aussi que c'était au début de la pandémie que j'y suis allée et j'ai une expérience juste de quelques jours dans ces services. Donc évidemment, d'autres savent beaucoup plus, ont plus travaillé dans ces unités. Donc, je vais vous donner ma petite expérience dans ce domaine. Donc moi, c'était, je vous le disais, en début de pandémie, j'avais un peu de patients. Ils étaient plutôt jeunes, sans antécédents, et j'avais, on va dire, plutôt peu de soins à leur faire parce qu'ils étaient plutôt juste en surveillance.
Du coup, ces gens-là, expliquer un peu le tri, entre guillemets, c'est pas vraiment le bon mot, on dirait que je parle d'une boîte postale, mais pour expliquer comment les patients sont répartis, sont orientés en fonction des services. Toi, tu recevais des patients qui avaient un état de santé trop inquiétant pour pouvoir rester à domicile.
C'est ça.
Et qui avaient donc de la nécessité d'être hospitalisés pour des soins, pour de l'oxygénothérapie éventuellement.
Oui, c'est ça. En fait, par exemple, on va prendre un patient qui est arrivé aux urgences. Un petit peu, on va dire, qu'importe le diagnostic ou qu'importe sa raison, la raison pour laquelle elle s'est rendue aux urgences, les patients passaient dans un service un petit peu le temps de faire des prélèvements, savoir s'ils étaient infectés ou non par le virus. Ensuite, nous, on avait les patients chez qui c'était avéré et qui étaient, comme tu dis, pas assez bien pour rentrer à la maison parce que justement, il y avait un service de surveillance à domicile. Des collègues, des soignants qui les appelaient, qui les suivaient à la maison, devaient surveiller certains paramètres, et eux qui étaient quand même un petit peu limite, qu'on surveillait, qui n'étaient pas non plus dans un état très 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 avancé ou qui méritaient des soins vraiment, très lourds, ils n'étaient pas du tout en réanimation, mais étaient à surveiller parce que c'est possible qu'une complication arrive très vite et que la situation vraiment dérape et qu'ils aient besoin d'être ventilés, par exemple, intubés. Enfin, voilà, ils étaient à surveiller. Mmh. Du coup, c'est une organisation totalement différente. Puisque justement, comme des services un petit peu dans l'infectiologie, on a beaucoup de précautions à prendre avant de rentrer dans une chambre. C'est pas vraiment comme un service lambda où, quand on a besoin, on rentre dans la chambre, on discute avec le patient, tout simplement, l'équipe rentre, le médecin rentre. Là, pas du tout. Le but, c'était que le minimum de personnes rentrent dans la chambre un minimum de fois. Donc, on nous avait conseillé que, à peu près, la norme, c'était 3 ou 4 passages maximum par jour dans la chambre. Donc, à chaque fois qu'une personne, c'était qu'une seule personne qui rentrait. Et à ce moment-là, devait apporter les médicaments, faire les soins, les aider, par exemple, pour la toilette, le linge de lit, les soins de nursing, mais aussi apporter les repas, enlever les poubelles, le linge de lit, enfin, les vêtements, comment on dit, tout le linge de la chambre. Du coup, souvent, cette personne, bah, c'était plutôt l'infirmier, parce qu'il faut aussi faire des soins... technique des surveillances.
Oui, autant mettre la personne la plus qualifiée, entre guillemets, du service pour pouvoir rentrer et faire un maximum de gestes pour éviter les allées et venues dans la chambre.
C'est ça, parce qu'il faut en fait prendre le moins de risques possible pour tout le monde. D'abord, on toquait à la chambre pour que le patient se prépare aussi. Il devait mettre son masque avant que le soignant rentre dans la chambre. Ensuite, on s'habille d'une façon particulière. Il y a vraiment une procédure stricte. J'espère ne pas avoir oublié les étapes. Mais je vais vous expliquer un petit peu. Par exemple, quand moi, j'arrivais à l'hôpital, donc j'avais ma tenue civile de l'extérieur, je passe par les vestiaires comme d'habitude. Je mets ma petite tenue d'infirmière, magnifique blouse et pantalon en tissu vraiment habituel. Et pour les chaussures, on nous avait fourni des petits chaussons d'hôtel, vraiment les petits chaussons blancs comme ça, un peu tout mou, afin de nous rendre dans le service Covid. Donc on arrive dans le service Covid dans cette tenue avec les petits chaussons très très mignons. Ensuite, on change de tenue, on remet une tenue en tissu, mais colorée pour savoir que ça vient vraiment d'un service Covid. Donc on change le haut, le bas, et on avait des chaussures aussi spéciales dans le service.
Donc une sorte de code couleur, donc pour savoir que vous étiez intervenant dans ce service.
Et évidemment, on n'a rien dans les poches, on n'a pas de téléphone portable, on n'a pas de stylo. On les emmenait dans le service, mais dans une salle, on va dire, dédiée, c'était sous plastique, c'était renettoyé, voilà.
Et ça peut paraître un détail, mais c'est vrai qu'on on se balade habituellement, enfin, avec une paire de ciseaux, une paire de pinces, des stylos, un carnet de notes, voilà, exactement. Oui, donc là, vraiment le strict minimum à transporter sur soi.
C'est ça, et évidemment, on avait aussi un masque. Ensuite, dans cette tenue, avant de rentrer dans une chambre, on mettait un masque, vous savez, FFP2, c'est ceux qu'on a vus à la télé, vraiment des masques qui prennent beaucoup plus le visage, qu'on doit plaquer sur le visage pour être sûr qu'il fonctionne. Il faut avoir, faut que le masque soit aspiré vers le visage pendant qu'on inspire, donc c'est vraiment quelque chose de bien plus étouffant que les masques qu'on utilise à l'extérieur, que vous portez, j'imagine, actuellement.
Ces fameux FFP2, ils ont un pouvoir de filtration qui est plus fort. beaucoup plus
c'est
important.
C'est ça, exactement.
Dans un sens comme dans l'autre, le virus vers l'extérieur ou le virus vers l'intérieur du masque.
C'est ça, du coup, voilà, ça protège beaucoup mieux, et quand on rentre dans une chambre avec un patient contaminé, il faut évidemment se protéger. On n'est pas des kamikazes, on ne rentre pas comme ça par plaisir. Évidemment, comme tout le monde, on souhaite ne pas être infecté par la maladie.
Et le patient garde un masque classique chirurgical.
C'est ça, pour éviter les projections, justement, et on essaye aussi de garder une distance avec lui. Donc là, j'ai ma tenue en tissu, je vais mettre mon masque FFP2. Ensuite, je vais me protéger les cheveux avec une charlotte ou un calot, mais bien fermé. J'ai des lunettes de protection. À ce moment-là, maintenant, on ne touche plus rien. On ne touche plus du tout à son visage. On laisse tout le matériel. Et vraiment, le but, c'est de toucher le moins de choses possible. Ensuite, je vais mettre deux sarraux, comment on dit, des tabliers de protection.
D'accord. Vraiment les tabliers plastiques ou les surblouses
On avait les deux, il me semble. D'accord. Et ça dépendait des soins.
Je crois avoir vu ta photo, je crois que c'était surblouses papier.
Ça fait quelques temps, du coup, c'est peut-être un peu moins précis. Mais donc voilà, on avait deux blouses et deux paires de gants. On avait un petit système, on avait trouvé un truc. Vous voyez, comme les vêtements de sport, on met un passe-pouce, comment on dit, un petit trou pour le pouce, afin de pouvoir éliminer la première tenue au fond de la chambre, là où on a les containers justement dédiés. Et en enlevant la première blouse, on arrivait à enlever la première paire de gants qui, elle, est vraiment contaminée puisqu'on a touché les affaires autour du patient. Même si on a fait vraiment attention à toucher le minimum, on a forcément touché quelque chose.
Bien sûr. Et donc voilà. double paire de gants.
Ah oui, double paire de gants, double tenue. Et ce qui était vraiment appréciable dans le service, c'est qu'entre autres, tes collègues, infirmiers ou aides-soignants, moi j'avais eu les deux, sont vraiment derrière toi et t'aident déjà à t'habiller et à te rendre compte si tu fais les bons gestes, parce que c'est un stress énorme de réfléchir. Est-ce que je suis assez habillée? Est-ce que j'ai bien fait ça dans le bon ordre? Est-ce que j'ai droit de toucher ci? Est-ce que j'ai enlevé tout ce que je devais enlever? Enfin, c'est vraiment des grandes procédures. Et comme vraiment, c'est quand même assez risqué, assez stressant, on a besoin d'un coup d'œil extérieur.
C'est une réflexion permanente, en fait,
oui,
pour se demander est-ce que je fais le bon geste
C'est quand même une prise de risque, donc il faut vraiment faire attention. Et cette personne, souvent, qui était un peu toujours avec nous, était aussi nos petites mains, si on avait besoin, s'il manquait quelque chose dans la chambre, parce que c'est un peu notre hantise, quand on est tout habillé, rentré dans la chambre, s'il manque quelque chose, par exemple, quand on doit faire une prise de sang, ou n'importe quoi, il manque un médicament, on a oublié une fourchette sur le plateau, alors tout est jetable, hein, barquette jetable, couvert jetable, verre jetable, mais s'il manque quelque chose, il faut qu'on ressorte, mais on ne peut pas ressortir avec cette tenue, donc... Et le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas non plus des tonnes et des tonnes de matériel.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander, du coup, en termes de pénurie de matériel. On en a beaucoup entendu parler dans les médias. Est-ce que vous étiez touchés?
Nous, on nous donnait, par exemple, comme idée, attention, par exemple, des masques, on est autonome jusqu'à, genre, mardi prochain. Ah. Donc, on avait quand même une petite pression. Au début, on n'avait pas le droit de changer parce qu'on n'avait pas assez de matériel. Tout ce qu'on avait sur le visage, par exemple, je vous ai parlé du masque FFP2, des lunettes et du calot, tout ça, on devait le garder pour voir tous nos patients d'un coup. En fait, on ne touchait pas du tout le visage et on les enlevait qu'à la fin parce qu'on n'avait pas assez de matériel pour le changer à chaque fois. Mmh. Mais le reste en bas, c'était possible. Et du coup, cette personne derrière nous était vraiment... Enfin, il y avait une énorme bienveillance parce qu'elle nous aidait justement à nous apporter le matériel. Parce qu'il faut faire attention quand même, dès qu'on réouvre cette porte, la porte de la chambre, ça fait comme un vortex, il me semble, c'est un appel d'air. Et la personne doit aussi porter un masque FFP2 derrière, puisque justement, toutes les gouttelettes, exactement, pour être contaminées. Donc, c'est vraiment la deuxième personne était très, 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 très importante.
C'est une manière de travailler qui est très différente de ce qu'on connaît habituellement. Alors, bien sûr, dans un service conventionnel, quand on rentre dans une chambre, on réfléchit à ce dont on a besoin pour un soin. Mais à n'importe quel moment, on peut être amené à sortir de la pièce pour aller se réapprovisionner dans autre chose. Il suffit de se relaver les mains une deuxième fois. C'est assez différent. Et là, c'était vraiment une toute autre façon de travailler, de concevoir le soin.
Et c'est du coup énormément, je trouve, de réflexion. Comme je vous disais, qu'est-ce que j'ai droit de faire? Est-ce que je peux enlever ça? Et malgré les réunions avec l'hygiéniste qui nous donnait toutes les indications... C'est pas quelque chose, on n'est pas habitué à ça, c'est vraiment nouveau, on se posait encore des questions, personne n'avait vraiment les réponses, donc c'était voilà, du stress pour réfléchir aux bons gestes, à la bonne pratique à adopter. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, justement, on change totalement notre façon de travailler et c'est vraiment sympa, on a pu réfléchir ensemble avec mes collègues et soignants aussi, quand on a créé le service avec le matériel, les procédures, où est-ce qu'on contamine certaines choses, et c'est une réflexion enrichissante parce que d'habitude, c'est la routine, on n'a même pas le temps de se poser ce genre de questions, on n'a pas besoin, et là, c'est une autre façon de faire et de penser.
Est-ce que vous étiez... quelle était l'ambiance entre vous? Est-ce que vous étiez inquiet? Est-ce que il y avait du stress? Est-ce qu'il y avait beaucoup de questionnements? Comment ça se passait dans l'équipe?
Au début, il y avait beaucoup de questionnements, justement, comment on va faire? Qu'est-ce que... Justement, l'hygiéniste nous avait donné pas mal d'informations.
Donc, l'infirmière hygiéniste, c'est vraiment une personne qui travaille dans l'hôpital et qui chapeaute tout ce qui concerne l'hygiène, que ça soit des surfaces, de la prévention contre les maladies, les virus en tout genre, etc.
Et donc, qu'on appelle en cas de besoin, quand on a des questions, justement, elle vient nous donner des informations. C'est la référente au niveau hygiène.
Donc elle avait pu, je dis elle, mais... cette personne ou il avait pu intervenir dans le service pour essayer de vous fournir un maximum de procédures, de protocoles.
Exactement.
Pour vous en sortir.
Exactement, il y a plein de choses auxquelles on pense pas directement comme ça, même des choses à sortir de la chambre, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc c'était vraiment intéressant et je trouve que c'est une... Même si le contexte est vraiment totalement négatif, c'est pas une bonne chose cette pandémie, mais ça a apporté quand même des choses positives, des façons différentes de penser et c'est quand même enrichissant parce que j'espère qu'on revivra pas ça, en tout cas pas tout... Enfin, pas une autre pandémie. Là je pense qu'évidemment on va peut-être retomber dans... Le virus a l'air de reprendre un petit peu
de sa vigueur.
C'est ça. Donc là, je sais que dans le centre où je travaille, on est en train de réouvrir des unités justement dédiées au Covid. Mais malgré tout ça, niveau, je parle juste professionnel infirmier, c'était enrichissant.
D'accord. Voilà. Oui, ça t'a quand même apporté du positif. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais...
Des nouvelles expériences et des façons de penser totalement différentes. On se pose des questions, on a On n'a pas le temps de se poser d'habitude dans notre petite routine habituelle.
Voilà. Et il faut préciser qu'à l'époque, donc ça s'est déroulé au mois de mars ou avril.
En mars, je pense.
On avait beaucoup moins d'infos. D'ailleurs, on n'a toujours pas autant d'infos qu'on le souhaiterait sur le virus, sur le mode de propagation, sur les éventuelles immunités croisées ou autres. Mais il y avait beaucoup d'inconnus aussi.
Tellement de flou. On était, oui, c'est vrai que c'était très inquiétant comme environnement. Ça l'est toujours, d'ailleurs. On a de quoi être anxieux par rapport à ça. Mais je me disais que dans plein d'autres endroits, ils galéraient beaucoup plus parce qu'ils manquaient de matériel. Et travailler dans le service Covid, au moins, on avait de quoi se protéger. Et surtout, on savait de qui il fallait se protéger. Nos patients étaient contaminés. Donc ça, c'était une certitude. Et donc, c'est plus facile dans ce contexte-là de... On sait à qui... Enfin, où est le danger, en fait. C'est ça que je veux dire. Dans d'autres services, on est méfiant, évidemment, de tout le monde. Et on est quand même méfiant aussi de ses collègues parce que personne n'est vraiment immunisé, on va dire. Donc, on peut suspecter tout le monde. Mais moi, je trouvais que c'était un petit peu plus facile de travailler dans ce service-là, par exemple.
Et parmi tes collègues, du coup, est-ce qu'il y a eu des personnes contaminées, des suspicions, des tests qui ont été faits? Donc, le fameux test PCR, qui est un test de dépistage nasal.
Oui, dépistage nasal.
Un frottis nasal. Ou alors la sérologie, qui est donc la prise de sang qu'on peut faire a posteriori pour vérifier qu'on ait un certain taux d'anticorps.
Savoir si on a été en contact avec la maladie et qu'on a développé des anticorps contre... je n'ai pas connaissance de collègues contaminés, mais des suspicions, je pense qu'on a eu tous envers nous-mêmes, envers tout le monde. Hein. J'ai beaucoup de collègues qui ont été dépistés. Moi, j'ai été dépistée, mais dans un cadre vraiment plutôt privé que professionnel après des vacances. Mais on se méfie de tout le monde. C'est vraiment particulier comme ambiance.
Au sujet de ces patients, du coup, dont tu t'occupais dans le service, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur leurs différentes allées et venues dans le service? Comment ça se passait au niveau des déplacements de ces personnes?
Alors, les déplacements sont extrêmement limités. Le but, c'est que, évidemment, le patient ne sorte pas du tout de sa chambre parce que c'est faire prendre des risques à tout le monde. C'est le seul environnement où il a droit de rester, le patient, c'est sa chambre. Si jamais on avait besoin de faire un examen, quand le patient doit sortir de la chambre, évidemment il est masqué, par exemple pour l'emmener à la radio, faire une radio pulmonaire, par exemple le patient est masqué et toutes les personnes dans le couloir se mettent dans les chambres. Il n'y a que la personne qui est totalement habillée avec un masque FFP2 entre autres, qui peut rester dans le couloir et les accompagner à la limite, mais tous les autres collègues se cachent dans d'autres pièces. Enfin, vraiment c'est particulier.
Le pestiféré qui sort de sa chambre.
C'est ça. Ensuite, certains patients paraissent beaucoup mieux au niveau des symptômes et peuvent éventuellement rentrer chez eux. Et là, pareil, c'est vraiment tout le monde sort du couloir et les laisse passer. Et il était même demandé, avant les sorties, que les patients ouvrent la fenêtre de leur chambre. On laissait 30 minutes que ça s'aère et surtout que les gouttelettes puissent tomber au sol avant que nous, on puisse intervenir dans la chambre et tout nettoyer.
Du coup, les patients, l'issue à la sortie de ce service, il y en a deux. Soit l'état se détériore et ces patients atterrissent dans des services de réanimation,
oui,
j'imagine, pour des surveillances rapprochées.
Et souvent, ça se détériore même assez vite, donc il faut justement réagir vite. Soit justement, l'état s'améliore, les paramètres vitaux s'améliorent et on peut envisager un retour à la maison. Quand ils rentrent à la maison, évidemment, ils ne sont pas tout seuls. Nous, on les suit toujours par téléphone. Il y avait une assistante comme ça, je crois, qui les appelait tous les jours pour savoir s'ils allaient mieux, s'ils avaient encore de la fièvre ou ce genre de choses. Ils n'étaient pas abandonnés dans la nature.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, de nous expliquer comment ce service a été monté. Beaucoup de personnes pensent, à juste titre, parce que ça a eu lieu, qu'il y a vraiment des services qui sont sortis de terre sous des tentes, des choses qui ont été créées, etc. Toi, tu nous prouves qu'en fait, finalement, il y a des services qui ont été modifiés pour s'adapter à la demande.
Ça a totalement aménagé à la pathologie. Et mes collègues ont fait un travail de dingue, justement, pour apporter tout le matériel et vraiment réaménager et repenser tout un service pour être dédié uniquement aux patients atteints du Covid.
Et ce qu'on n'explique pas forcément, mais qui est englobé dans tout ça, c'est aussi un circuit pour la nourriture, comme tu disais, du jetable pour que la vaisselle potentiellement contaminés ne repartent pas dans les cuisines, dans les lave-vaisselles, etc. Le circuit du linge est aussi, c'est quelque chose qui est vraiment...
On n'y pense pas forcément.
Voilà.
Il y a on doit gérer beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas juste le patient, il y a aussi tout ce qui gravite autour de lui.
Oui. Bien sûr. Aussi des services de salle de réveil. Enfin, je sais qu'il y a par exemple, ça a été mon cas, moi, là où je travaillais, beaucoup d'interventions chirurgicales programmées non urgentes qui ont été annulées, reportées. Certaines ont d'ailleurs pu reprendre depuis. Et on s'est concentré sur la chirurgie d'urgence vitale ou d'urgence relative et des services de salle de réveil qui sont transformés en services de réanimation pour pouvoir accueillir ces patients. Enfin, c'est l'hôpital qui a été repensé de A à Z pouvoir gérer tout ça. Bah, c'est hyper intéressant. Merci, merci beaucoup en tout cas. On va finir cette petite interview, ce petit épisode avec une sorte de portrait chinois. Voilà, je voudrais finir chaque épisode sur cette lancée-là, des petites questions voilà, auxquelles tu réponds comme tu veux, comme ça te vient. Et voilà, on commence tout de suite avec la première. Si tu avais une baguette magique, donc on sort de tout l'aspect Covid, etc., vraiment dans ta pratique au quotidien, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour voilà, t'épauler, t'aider dans ta pratique?
Est-ce que je peux citer au moins 3-4 choses?
Il n'y a aucun souci.
Moi, je pense que, vu que j'oublie toujours quelque chose, j'ai beau penser à mon soin, réfléchir à tout ce dont j'ai besoin dans la chambre, j'ai toujours oublié quelque chose. Donc je pense à la téléportation par exemple, vraiment pour récupérer le matériel, le petit rouleau de sparadrap par exemple qui me manque et qui est totalement indispensable.
On est sur du pouvoir magique là, carrément.
Ah, mais totalement, t'as pas parlé de... Ah, non, ah,
non. Non, mais tout va bien. C'est s'adapter.
Ce qui serait très très utile, et je pense à beaucoup de personnes, et même il faudrait en doter l'hôpital parce que ça serait très utile, un scanner dans les yeux pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps directement, même pouvoir trouver les veines pour poser un cathéter, pour une prise de sang, et je pense qu'on serait tous ravis d'avoir cette fonctionnalité.
J'achète tout de suite, quel que soit le prix.
Et je pense, comme tout bon soignant, ben, une double vessie pour avoir un maximum d'autonomie et un camelback pour s'hydrater, greffé dans le dos par exemple.
Ouais, comme les triathlètes.
Exactement, ouais, avec la paille qui sort de la blouse, voilà.
Plus de déshydratation.
Ouais. C'est ça.
Excellente idée. La phrase que tu prononces le plus dans ton métier au quotidien?
Alors, je pense que si mes collègues m'entendaient, elles diront forcément, je leur dis toujours, la vie est pleine de surprises, mais des bonnes et des mauvaises, et on pense que ça va, la fin de journée ça va aller, tout le monde va bien. Non, la vie est vraiment pleine de surprises et on a toujours justement des événements qui arrivent, on s'y attendait pas du tout, et c'est vraiment, je pense aussi pour ça que j'aime mon métier, c'est que
ça résume ton
c'est
quotidien.
L'inattendu, exactement. Et si on interrogeait par contre mes patients, je pense que les deux mots que je leur dis le plus souvent dans la journée, c'est magnifique ou super. Je leur prends la tension, la température, je leur demande comment ça va, je finis toujours, je pense, par magnifique ou super. Mais ce sont mes deux mots fétiches.
Je m'entends très très bien le dire aussi, et ça les fait parfois sourire quand on dit magnifique par exemple devant une plaie.
C'est ça.
Et ils te disent vraiment.
Je pense que j'insiste même sur les troisièmes. Magnifique, vraiment.
En trois syllabes. Si tu étais un médicament, soit un médicament que tu injectes, que tu administres énormément, ou un médicament que tu aimes, ou je sais pas.
Ou que voilà. Je déteste.
Ou que tu détestes parce qu'il est impossible à préparer.
Alors, ce que j'ai administré, je pense vraiment, le haut du podium de toute ma carrière, de ma petite carrière du coup d'une dizaine d'années, et je pense que ça, vraiment tous les infirmiers utilisent quasiment la même chose, c'est le paracétamol, le doliprane, l'efferalgan, enfin... C'est un médicament qui agit contre les douleurs et qui fait baisser la fièvre qu'on en a. Et c'est quelque chose qu'on distribue, mais vraiment quasiment à tous les patients à l'hôpital qui ont des deux symptômes ou les deux en même temps. C'est vraiment pas le couteau suisse parce que ça sert que à deux choses, mais c'est le médicament qu'on dégaine le plus.
Vraiment la base.
Après, un médicament que je déteste, ce sont des vitamines qu'on appelle B1, B6. Et qu'on administre de temps en temps dans certains cas, par exemple chez des patients alcooliques chroniques, et qui sentent la délicieuse odeur d'œuf pourri, et qui te reste parfois sur les doigts, ou quand tu ouvres les ampoules, t'as l'impression que t'as un nuage vert autour de toi, c'est vraiment affreux niveau odeur.
On a tous le souvenir de rentrer dans la salle de soins, de sentir cette odeur de soufre d'œuf pourri,
c'est
et de
ça.
Dire qui à préparer de la B1B6.
Ah là là, c'est horrible. Même dans la chambre, je trouve, quand tu rentres dans la chambre du patient, ça sent cette odeur aussi vraiment caractéristique. Les perfusions de fer aussi, ça laisse une jolie couleur marronnée sur les doigts. C'est vraiment
brunâtre,
terrible. C'est ça.
Plutôt thé ou café?
Au travail, café, et largement, je pense que vraiment c'est la boisson officielle dans les centres de soins.
Oui,
je pense que
c'est le sponsor. Ouais, ouais.
D'ailleurs, si un jour vous vous demandez comment remercier une équipe médicale ou paramédicale qui vous a plu, vous êtes content d'une prise en charge, apportez un paquet de café, ça marche toujours, tout le monde sera ravi et sera bu. Voilà.
Une petite boîte de chocolat avec,
ça
fonctionne toujours.
C'est ça.
Toujours un grand succès. Plutôt Crocs ou baskets? Alors les crocs, ces fameux sabots...
Hyper moches.
Voilà, d'une couleur douteuse, d'un design un peu douteux également, mais qui sont...
En plastique, avec des petits trous.
Voilà.
Alors avant, j'étais crocs, je trouvais ça très pratique à nettoyer. Et depuis que j'ai changé d'horaire, depuis que je suis passée en 12 heures, j'avais tellement mal aux pieds, aux talons, de rester debout dans ces chaussures où... qui n'apporte à peu près aucun soutien en fait à la cheville, à la voûte plantaire. Donc je suis passée au basket. Donc j'ai envie de dire un peu des deux, mais maintenant basket.
Je crois que c'est vraiment la hantise des podologues. C'est vraiment...
Ah oui. Ah oui, en plus on glisse facilement en crocs. Enfin, ouais. C'est juste pratique parce que ça se lave bien. Mais
ça se lave bien, c'est extrêmement léger. J'aurais jamais cru parler autant des crocs avec autant de ferveur, mais c'est une chaussure très agréable à porter, mais ouais, qui est probablement pas très bonne ni pour la posture ni pour les pieds. Mais il y a un peu les deux teams, quoi. 10 ans dans le même service ou 10 services en un an?
Je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai travaillé dans l'équipe de suppléants, c'est ce qu'on appelle le pool, c'est un petit peu les infirmiers volants qui viennent aider les services quand il y a besoin et quand il leur manque par exemple un infirmier. Et du coup j'ai calculé que cette année, donc en une année, j'ai fait déjà plus de 15 services différents, donc je te dirais 10 services voilà. Dans une année.
C'est validé. Et la dernière question, qui, voilà, à laquelle tu peux répondre de la façon dont tu souhaites, de quoi manques-tu au travail?
Oh, une troisième main, peut-être, un petit Jiminy Cricket sur mon épaule quand j'ai pas de réponse ou quand des fois je ne sais plus quoi dire ou quoi faire. Mais je pense, un peu comme tout le monde, de moyens humains, de matériel et d'un petit peu de considération aussi. J'avoue que des fois, on a du mal à avoir plus de moyens humains, plus de moyens matériels, mais... Juste nous dire, c'est bien ce que vous faites et merci pour ce que vous faites. J'avoue que ça fait beaucoup de bien. Voilà.
Ça fait chaud au cœur de l'entendre.
C'est ça.
Bon, Morgane, mille merci pour ce premier épisode de podcast. Je suis vraiment, enfin, t'imagines pas, tellement, tellement ravie de t'avoir eu à mon micro.
Moi aussi.
C'était génial de démarrer ainsi. On n'en a pas parlé, mais Morgane est, comme moi, blogueuse.
Absolument.
Voilà, sur... bestofvanity.com.
Exactement, j'ai une chaîne YouTube, un blog et un compte Instagram.
Exactement.
Avec toujours le même nom, donc Best of Vanity.
Un peu partout.
C'est ça.
Donc on vous invite fortement à aller la suivre sur ses réseaux pour son quotidien d'infirmière et tout le reste, ses passions.
Oui, là, c'est surtout le reste, j'avoue.
Ouais.
plutôt de la nature, des cosmétiques naturels, des voyages, des balades. Un petit peu de tout, et j'avoue pas trop justement le métier d'infirmier parce que c'est un petit peu plus ma bulle d'évasion.
Voilà, exactement. De toute façon, c'est un truc assez général chez les infirmiers. Ce besoin, j'ai l'impression, et je pense que ça va se vérifier au fur et à mesure des épisodes, d'avoir une vie perso très riche à côté pour se changer les idées.
Bien sûr, oui.
Et pour penser à autre chose. Donc voilà, tout ça pour dire, allez suivre Morgane sur son blog.
Merci.
Ça fait quelques années maintenant, on s'est lancé quasiment
c'est
en
ça,
même
voilà.
temps. Je vous invite à aller la suivre et encore un grand merci pour cet épisode.
Merci beaucoup, et vous le voyez pas, mais on a toutes les deux le sourire, on vient de papoter entre copines, c'était vraiment très sympa comme discussion, donc j'espère que vous avez passé un bon moment aussi en notre compagnie. Nous on a le smile, hein.
Ouais,
c'est vraiment
on est contente,
oreilles.
On espère que ça sera communicatif. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Merci. Au revoir.
J'espère sincèrement que ce premier épisode vous a plu et j'en profite pour remercier à nouveau Morgane pour son temps et pour sa gentillesse. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles sur l'application de podcast que vous utilisez. Vous pouvez me contacter par mail, toutes les informations sont dans les notes de cet épisode si vous souhaitez partager avec moi un témoignage, une expérience. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.